de la grande table, entrée et plat de résistance. De résistance, puisqu'il semblerait qu'écran et série comblent désormais nos besoins de fiction, no comment. C'est la grande table des livres, donc, avec à 13h30, le portrait d'une primo-romancière, Anne Pauly, auteure d'Avant que j'oublie, aux éditions Verdier. Mais avant cela, d'autres livres, 524 exactement, qui se disputent une place sur les tables des libraires. C'est justement aux libraires que nous avons décidé de donner la parole, tout comme l'a fait l'hebdomadaire Le 1 dans son numéro qui sort demain. Trois libraires, lecteurs imperturbables à l'œil aguerri, guident parmi les stocks que la rentrée littéraire déverse. Catherine Florian de la librairie Violette & Co, Karine Henry de la librairie Comme un roman et Anne Lorvial de la nouvelle librairie Ici. À leur côté, un guide supplémentaire, Julien Bisson, rédacteur en chef de notre hebdomadaire partenaire Le 1. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Frida reste en retrait, parce que son corps n'est pas vraiment rétabli de l'accident. Certes, il surchauffe ce corps, autant qu'une plaque de tôle en plein soleil. Ça flambe, il se braise d'alcool limpide, d'aubades de guitaronne et de trompettes intransigeantes. D'une soif de s'envoyer là-haut, là d'où l'on ne revient pas intact. Mais ses jambes ne la portent qu'à peine. Frida doit se réapprendre. Chaque geste engage des conséquences inconnues et terrifiantes. Les douleurs tapis sont prêtes à mordre. Ça fait froid d'avoir peur, elle qui n'était que course. Course à vive allure dans les couloirs de l'école, à saute-mouton au-dessus des murets de son quartier, dans les coulisses des classes aux professeurs trop sérieux. Course encore s'il faut monter à une tribune ou grimper à un arbre. Course dans les rues de Mexico pour ne rater aucun des rendez-vous qui changent votre journée ou votre vie entière. Course à perdre sa tête de sauterelle insensée, Frida insatiable et boute-le-feu, qui ne jouait qu'au jeu des garçons depuis l'enfance, ne manquant aucun défi impérieux où l'on s'égratigne les genoux, s'ébroue les sens et se griffe le visage. Les jambes de Frida, qui gardent, comme une démangeaison, la mémoire de l'audace passée et l'infaillible témérité d'hier, sont aujourd'hui bois mort, rouillés à 20 ans depuis l'accident, diable de corps rendu schizophrène. Alors Frida admire German ou Tina danser à la diable, frénétique et débridée. Et c'est un peu elle qui danse avec eux quand Tina soulève haut la jupe, excitant des sueurs aux entrejambes et au front, tout en resservant, sereine et allègre, la tequila à son amant cubain, Antonio Mella.
Bonjour à tous.
Bonjour.
On démarre un peu les pieds dans le plat. D'abord, Rien n'est noir, Claire Berest, et cette exo-fiction sur Frida Kahlo, l'exo-fiction que l'on retrouve depuis des années, depuis 2010 plus précisément dans les fortes tendances, mais depuis toujours. Qu'est-ce que vous inspire ce texte, Catherine Florian peut-être ?
De Claire Berest.
Claire Berest.
Je n'ai pas lu le Frida Kahlo de Claire Berest de la rentrée, mais j'avais lu le précédent, Gabriel. Là, je pourrais pas parler particulièrement de ce texte, mais sur l'exo-fiction de manière générale, effectivement, c'est une tendance qu'on observe depuis un certain nombre d'années. C'est plus ou moins heureux, il faut bien dire. Dans l'exo-fiction, c'est pas toujours réussi, mais c'est une façon, je pense, à la fois d'informer, qui peut être informé sur des personnes connues, historiques, artistiques, etc. Mais c'est une façon aussi pour les auteurs de parler d'eux, d'une façon détournée. Donc c'est effectivement une sorte d'autofiction à travers de personnages connus, qui est une forme apparemment littéraire, donc qui a sa place de plus en plus, hein, et qui peut être effectivement très intéressante.
Alors, est-ce que ça sert aussi de support, de structure, Karine Henry? Est-ce que vous, c'est votre vision aussi de l'exo-fiction? Je rappelle que c'est un style littéraire qui s'inspire d'un personnage de la réalité ou d'un personnage littéraire d'ailleurs. Ça sert de socle, de structure dramaturgique?
Oui, justement, je venais de remarquer qu'il y avait peu ou pas du tout d'autofiction assumée dans cette rentrée, et que la fiction et l'autofiction étaient vraiment remarquables, en fait. Je pense que l'exo-fiction permet un élan narratif, en fait, à partir d'un personnage, à partir d'une situation donnée, historique. Je pense que l'écrivain peut s'élancer sans prendre un risque personnel trop important, justement, pour rejoindre et se livrer entièrement à au corps du personnage. Je pense au livre de Valentine Gobbi, par exemple. Il y a vraiment dans l'exofiction la possibilité de dépasser ce que l'on aurait fait dans une autofiction ou dans une fiction.
Alors, plusieurs exemples dans cette rentrée. Hein, ceux qui parlent d'écrivains, alors les écrivains qui parlent d'écrivains, ça c'est aussi un ressort consacré à Virginia Woolf, à Jean Giono, par exemple, à Jack London aussi. Julien Bisson, quand même, les récits de soi, on en trouve aussi dans cette rentrée littéraire. Peut-être que ces récits de soi, il est revisité, l'autobiographie peut-être en chiffres. Je pense à la data biographie qu'on retrouve chez Flammarion et à ce genre d'exemple-là.
Oui, il y a quand même quelques livres qui s'intéressent au récit de soi. Je pense aussi au Orléans de Yann Moix, qui revient sur son enfance battue. En effet, un autre Éden de Bernard Chambaz qui lui revient. Il croise d'ailleurs, de façon assez magistrale, l'exofiction et l'autofiction, puisqu'il revisite les histoires de Jack London et de son fils Martin, né à un siècle d'intervalle. Donc il y a toujours de l'exploration de soi. Mais c'est vrai que sur l'exofiction, moi je trouve aussi intéressant le fait que quand on parle, c'est parler de soi, mais c'est aussi parler de notre époque. C'est toujours parler de notre époque, même quand on est sur un roman historique, sur un personnage historique. Et il y a une autre tendance qui est un peu liée à l'exofiction qui m'intéresse dans cette rentrée, qui est l'Uchronie. Parce que l'Uchronie, quand Laurent Binet écrit Civilisation, dans Civilisation, il imagine que finalement ce ne sont pas les Européens qui vont débarquer dans les Amériques, mais ce sont les Américains qui vont débarquer en Europe.
Bah d'ailleurs, c'est avec un Z et au pluriel.
Exactement. Eh bien, c'est une façon de reparler notre époque, puisqu'il imagine comment 500 ans plus tôt, en fait, on a déjà une Europe qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, l'exofiction, dans toutes ses formes, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est un genre qui est assez mature pour qu'on puisse l'explorer dans des formes qui soient autre chose que le simple récit biographique, nous parle toujours de nous et de notre époque, et c'est ça qui, à mon avis, rend le genre aussi intéressant et aussi propice à des lectures par des lecteurs contemporains.
Et en même temps, on pourrait se faire l'avocat du diable, Julien Bisson, et dire, mais est-ce que c'est le rôle de la littérature que d'être un peu d'actualité, que d'être si ancré que ça dans l'époque ?
Je ne crois pas que ce soit comme ça que les écrivains se le pensent. Je ne pense pas que les écrivains se disent « Ah, je vais écrire un récit historique qui va nous parler de notre époque ». Ça se fait malgré lui. Ça se fait toujours malgré lui, comme il parle de soi sans forcément le vouloir.
Alors, c'est l'époque qui souffle à travers la plume de l'écrivain. Anne-Laure Vial, vous peut-être quelques mots sur la manière... Alors vous travaillez à la librairie ici, nouvelle librairie des Grands Boulevards à Paris. Qu'est-ce que vous faites quand la rentrée pointe son nez, quand les stocks arrivent? Comment se fait le choix, mais aussi la lecture ordonnée? Est-ce que vous avez une méthode?
Alors on commence bien
les mains
avant.
Dans le cambouis.
Voilà, on commence bien avant évidemment que les stocks arrivent, sinon on serait submergé. Il y a quand même 524 livres. Et là, ça sera notre toute première rentrée. On a commencé avec les rentrées littéraires, donc les soirées de rentrée littéraire des éditeurs. On s'est relayés, on a tous été, toute l'équipe, on a 9 libraires sont allés à ces soirées. On a récupéré les services de presse, on a lu tout l'été. Puis maintenant, on est en train d'échanger en fait sur une sélection de 28 coups de cœur. Donc on partage, on s'engueule un peu hein, pour savoir ce qu'on va garder. Et parallèlement, on fait un travail avec le représentant de choix de ce qu'on va présenter de façon plus forte. Donc déjà, nos coups de cœur commencent à émerger et on va faire des piles, tout simplement.
Comment vous organisez cette lecture? Est-ce que c'est par maison d'édition, par tendance, par choix subjectif, division entre les premiers romans, les autres?
Presque tout ça. En fait, on essaye d'avoir une belle représentativité. On pourra pas tout lire. Donc, on se répartit les maisons d'édition, des premiers romans, de la littérature française, américaine. Et puis aussi par affinité. Parce que y a rien de mieux que lire un livre qu'on va aimer. Et donc, chacun va aussi piocher ce qu'il a eu envie de lire le plus.
Alors, de la manière de faire dépend aussi le type de librairie aussi que l'on a. Catherine Florian, comment est-ce que vous y prenez à Violette & Co pour choisir votre rentrée?
Alors, il y a différents... Alors, effectivement, il y a par rapport à la thématique, hein, aux thématiques de la librairie qu'on développe à Violette & Co.
Dont il faut dire un mot peut-être.
Oui, voilà. Puisqu'on a deux thématiques principales qui sont femmes, féminisme et sur les questions LGBT, questions de genre de manière générale. Donc, pas seulement, on développe et c'est transversal puisque c'est aussi bien en littérature, les essais, en BD, polar, jeunesse aussi, un rayon important. Donc, effectivement, sur les livres, on va essayer de repérer un petit peu dans la rentrée, évidemment, ce qui se rapproche de nos thématiques. Donc de privilégier, disons, ces livres qui sont sur ces thématiques-là, qui va orienter nos lectures, mais pas seulement. Il y a aussi un repère qui est bien sûr les maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition avec lesquelles on a des affinités et que donc qui vont attirer notre attention. Et on va faire beaucoup plus attention un petit peu à ce qui sort dans ces maisons d'édition.
Quelques exemples?
Oui, par exemple Vertical, c'est une maison qu'on suit, et voilà, ou Rouergue aussi, la Brune au Rouergue. Donc ça, ce sont des maisons, mais c'est aussi ça peut être aussi par les auteurs que l'on suit depuis voilà, depuis un certain nombre d'années, qu'on a envie, qui pouvaient être par exemple pas très connus à un moment donné, qui sont devenus très connus, on en est très content, et je pense particulièrement à Léonora Miano, voilà, qu'on a suivi, puisque la librairie s'est ouverte en 2004, son premier roman en 2005, et on l'avait invité très vite, et on l'a suivi d'année en année, et donc maintenant effectivement elle est connue et reconnue, et on en est très contente. Donc des auteurs qu'on suit comme Olivia Rosenthal, Marie Darrieussecq, Julia Deck, voilà, donc par exemple, donc on va effectivement de rentrée en rentrée suivre ces auteurs-là. C'est aussi à la pêche, parce que les premiers romans sont importants.
Ah oui, alors les premiers romans sont importants
et on sait les difficultés. Alors déjà, de manière générale, c'est difficile d'attirer l'attention des critiques, des libraires, bon. Mais les premiers romans, c'est encore plus difficile. Donc on essaye de voir effectivement dans les premiers romans, et ça on y fait très attention, ce qui peut émerger, ce qui peut être intéressant.
Alors la méthode, on va demander justement, comme on fait un petit tour de table, Karine Henry, comme un roman, comment est-ce qu'on s'y prend justement pour faire le tri parmi les premiers romans? Est-ce qu'on se fie au choix et au goût des grandes maisons d'édition, ou est-ce que justement on essaie de faire un panel assez large, sachant qu'il est impossible de tout lire?
Oui.
Même s'il y a moins de livres cette année, il faut le préciser.
Oui,
à peu près une quarantaine de moins que l'année dernière.
40, ouais, ça fait 7,6% en moins. C'est une marge qui est discrète, mais qui est importante, signifiante, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de ce qu'on appelle la surproduction. Et avant tout, la surproduction, c'est quand même la porte ouverte à des achats décevants pour les clients. Et notre travail, c'est vraiment de faire une sélection extrêmement précise pour éviter justement de perdre des clients qui seraient déçus par leurs achats. Et c'est vraiment ce qu'on a en tête comme axe à chaque moment de lecture, en fait. C'est, est-ce que ce livre-là, je le garde en table, je vais le conseiller, parce qu'on doit pouvoir assumer en fait ce qu'on conseille. Donc, on peut pas tout lire. Ça, c'est, oui, effectivement, c'est impossible, parce qu'il y a 524, il y a 82 premiers romans. Donc, cette année, la part est belle pour les premiers romans. Ça n'a pratiquement pas baissé. Comment fait-on? On se dit pas, oh, tiens, toi, tu vas lire les premiers romans et moi, je lis les autres. En fait, par affinité, il y a une répartition au début qui se fait à partir du mois de mai, à peu près. Réunion de représentants, réunion de maisons d'édition, représentants, services de presse qui sont disponibles. On lit, on échange très régulièrement autour des cartons, parce que la rentrée rime avec carton et sélection, du coup. Et la question, justement, hier, on se posait la question des tables, parce que c'est une vraie...
Casse-tête.
C'est extrêmement difficile, et on se demandait si on allait faire un ensemble de premiers romans, en fait, réunis, ou si on allait disperser et dispatcher, est-ce qu'on écrivait premier roman dessus. C'est toute une thématique qui était là hier dans notre librairie.
On a la question de catégoriser le genre.
Et en fait, non, on va les laisser parmi les autres, mais en fait, les considérer comme des coups de cœur, une sélection qu'on assume. Avec des bandeaux, voilà. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette sélection, à la rentrée, là, aujourd'hui, elle n'est pas du tout figée, elle n'est pas du tout précise pour l'instant, qu'elle va se faire au fur et à mesure, depuis la mi-août jusqu'à octobre. Nos tables, elles vont changer en permanence, au fur et à mesure des lectures. C'est vraiment une work in progress, Pour l'instant, il n'y a rien de figé.
Alors, Julien Bisson, puisque c'était aussi le choix du 1 que de faire parler les libraires, on va reprendre peut-être ces questions qui sont, dans votre édito en tout cas, des questions aussi sous un angle économique. On a parlé, Karine Henry parlait de surproduction. Alors même s'il y a un peu moins de livres, il y en a quand même toujours beaucoup. Comment est-ce que se porte ce marché du livre? Alors on sait qu'il se porte moins bien, mais quoi d'autre?
C'est un marché du livre qui est en reflux. Alors, c'est pas propre à la littérature. Le marché du livre, en général, est en reflux. Les chiffres du Syndicat national de l'édition pour 2018, il me semble, c'est moins 4,8%. Et c'est un peu plus grave pour la littérature, puisqu'on est à moins 5,5, je crois, sur 2018. Pendant très longtemps, en effet, les éditeurs ont essayé de répondre à la crise par la surproduction. C'est ce que disait déjà Jérôme Lindon dans les années 90, à une époque où la crise du livre était moins forte qu'elle ne peut l'être aujourd'hui.
Il faut revenir sur ses propos par la surproduction. Il le dénonçait comme une méthode un peu absurde.
Bien sûr, en essayant de garder à tout prix un chiffre d'affaires, sans forcément, et en voyant le nombre d'exemplaires vendus par livre, c'est grignoté au fur et à mesure. Le fait que cette rentrée avec 524 romans, je crois que c'est le total le plus faible depuis 20 ans, ça montre qu'il y a en effet peut-être une prise de conscience, comme le disait Karine, sur le fait qu'il fallait, ça ne sert à rien d'avoir un catalogue qui propose 14 romans, que vous ne sauriez pas défendre, que vous ne sauriez pas porter pendant toute la rentrée. Donc il y a déjà de ce point de vue-là, une avancée. Maintenant, il y a des difficultés nouvelles. On sait que, vous l'avez rappelé en préambule de l'émission, il y a quelques années, il y avait moins de gens qui étaient abonnés aux séries, qui étaient abonnés à des plateformes de vidéos à la demande.
Maintenant,
On ne pas les nommer. Ça se compte en millions, près bientôt 10 millions.
Qui viendraient combler notre besoin de fiction, alors, vous y croyez ?
Peut-être, oui. Je crois en effet qu'il y a des séries qui viennent vraiment concurrencer le besoin de fiction, la complexité narrative que grands lecteurs nous cherchons dans les romans. Donc l'idée n'est pas de taper sur les séries, parce que les séries, il y a des excellentes séries. Mais en effet, c'est une concurrence véritablement nouvelle que le cinéma ou la télévision n'exerçait pas forcément sur la littérature. Aujourd'hui, il y a cette concurrence nouvelle qui contraint en effet les éditeurs à devoir réfléchir à de nouvelles façons de présenter leurs romans, ou en tout cas aujourd'hui à une nouvelle approche commerciale par rapport à leur production.
Alors sur la question fiction-non-fiction, est-ce que cette frontière n'est pas devenue un peu poreuse? On parlait d'exofiction tout à l'heure. Est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de communication entre le réel, encore plus forte, ce qu'on met aussi dans les catégories des livres, ce qu'on appelait les documents, les essais, et la fiction aujourd'hui? On a le sentiment par exemple que la catégorie roman est une catégorie fleuve, Catherine Florian.
Oui, effectivement, parce que on le voit bien, des fois, on a souvent du mal à ranger les livres dans nos rayons.
Question pratique, voilà. Qui en dit long.
C'est très important. Je me suis aperçue que de plus en plus, on avait ces difficultés-là, savoir est-ce que je le mets dans les fictions, est-ce que je le mets dans les essais, les documents. Et effectivement, c'est de plus en plus poreux. Mais en même temps, quand Karine parlait de sélection de cartons et de placement
sur les tables.
Effectivement, nous on avait un petit peu cette politique-là depuis l'ouverture de la librairie, mais alors ça se confirme de plus en plus. C'est qu'effectivement, on ne fait pas de classement sur, par exemple, littérature en française ou littérature traduite. On mélange tout. On mélange les premiers romans aussi bien que les auteurs confirmés. Effectivement, on marche par coup de cœur, et ça permet aussi, c'est important, tout à l'heure je parlais des maisons d'édition, et de revenir là-dessus, c'est aussi d'aller à la découverte de petites maisons d'édition.
Donc vous brouillez les pistes des éditeurs.
De défendre les petites maisons et de mettre un peu tout le monde sur le même plan, c'est important, et je pense que du coup, ça permet à notre public d'aller un petit peu à la pêche. Et de mettre en avant peut-être, effectivement, des auteurs beaucoup moins connus, des maisons d'édition moins connues aussi. De les mettre en avant, c'est important. Donc voilà, sur le brouillage des pistes, effectivement, entre fiction et récit, moi, je trouve que c'est très bien, effectivement, ce brouillage de pistes.
Anne Lorvial, le brouillage des pistes et le brouillage des noms, parce qu'il y a quand même quelques noms qui accaparent beaucoup les rentrées littéraires.
Tout à fait. Et après, on parlait de Serge Chalandon, on a des grands noms là qui sortent, mais je dirais que on lit ces livres, on va les présenter à notre public, pour qu'ils le trouvent. Bon, on a Amélie Nothon qui est sortie hier, qui est très attendue. Mais on va aussi, c'est ce qu'on disait, chercher à faire des découvertes. Et brouiller les pistes, j'aime beaucoup cette idée, parce que c'est vrai qu'on va mettre côte à côte des auteurs connus, des auteurs moins connus. On va fonctionner par affinité, parfois de thème, pour les mettre côte à côte. Et ça, je crois que dans certains cas, on va vraiment défendre des coups de cœur, faire la prescription pure et dure. Et c'est vraiment notre rôle. Mais dans d'autres cas, il faut pas, faut que le client qui rentre dans la librairie trouve facilement aussi ce qu'il attend. Donc il faut pas qu'on cache certains livres, il faut vraiment qu'on joue aussi le jeu des meilleures ventes en parallèle.
Julien Misson, la question des poids lourds, pour utiliser un terme un peu trivial, c'est aussi une grande question, qui est l'un des aboutissements aussi du capitalisme, la question de la concentration et des grands noms de la rentrée. Vous êtes allé voir des libraires, justement, à l'extérieur aussi de Paris.
Oui, on allait voir des libraires parce que les libraires, c'est l'un des maillons, sinon le maillon le plus important de la chaîne du livre, puisque c'est le seul maillon qui fait vraiment le lien entre le livre et le lecteur. C'est le seul maillon qui connaît excellemment bien le livre et qui connaît excellemment bien les lecteurs. Il n'y a pas d'autre maillon de cette chaîne qui est aussi connaisseur de cela. Donc c'était très important pour nous d'aller les interroger. Par rapport au poids lourd de la rentrée littéraire, c'est vrai que c'est toujours ceux dont on voit les listes dans les présentations de la rentrée. Qui a vu venir l'année dernière les succès, les triomphes de Nicolas Mathieu, de Valérie Manteau, de David Diop? C'était pas ceux qui apparaissaient dans les présentations de la rentrée littéraire. On avait vu d'autres grands noms à ce moment-là apparaître. Et puis finalement, ce ne sont pas eux qui ont décroché les timbales des grands prix de la rentrée. Donc, il y a ce jeu des poids lourds, mais il ne faut pas qu'il vienne obscurcir, en effet, la diversité et la qualité de tous les autres livres de la rentrée.
Même si ces poids lourds-là les ont souvent décrochés, les timbales, à d'autres moments.
Bien sûr, les poids lourds sont, pour des raisons commerciales notamment, sont défendus par leurs éditeurs. Mais on voit bien aussi, d'une part, que les lecteurs ne sont plus tout à fait dupes, que parfois il y a une crise de confiance par rapport à certains poids lourds un peu trop mis en avant et que les lecteurs eux-mêmes veulent parfois aller chercher ailleurs. Et puis, aussi bien chez les libraires que dans les jurys des grands prix littéraires, il y a aussi une volonté, justement, d'aller voir au-delà de ce grand rideau des poids lourds.
Alors, sur cette question de la notoriété des écrivains, Karine Henry, vous qui organisez aussi, et c'est le cas de beaucoup de librairies, des rencontres avec les auteurs, comment se fait aussi cette sélection qui accompagne la sortie des livres? Est-ce que, justement, on décide de mélanger les auteurs déjà connus, reconnus ou chevronnés avec les jeunes auteurs? Comment est-ce que vous faites cette sélection-là complémentaire?
En fait, oui, cette sélection complémentaire, elle vient au fur et à mesure des lectures. On décide de nos propres tendances, finalement, en décidant de mettre en avant des auteurs qui ont besoin d'un coup de main ou d'un coup d'œil du libraire. Parce que, en fait, on fait une différence entre les livres qui, entre guillemets, se vendent tout seuls et les livres qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin d'un coup d'œil. Et ce ne sont pas forcément des auteurs inconnus. Ce sont parfois des auteurs qui sont très importants dans le paysage contemporain, mais qui sont cachés, on va dire. Il n'y a pas de couverture médiatique assez puissante. Et bien, c'est au libraire, à ce moment-là, de faire le relais, de rentrer en interaction entre ses clients et ses auteurs. Là, je pense aussi comme Léonard Miano ou Éric Faye ou voilà, Valentine Gomi. Voilà, exactement. C'est important d'être là. Et alors, à ce moment-là, personnellement, dans la librairie, je trouve que c'est intéressant de les inviter, en fait. Parce que ce sont des personnes qu'on ne voit pas forcément et ils ont quelque chose à apporter à leur roman. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se fait. Il est difficile aujourd'hui de remplir une salle à Paris avec un auteur dans la littérature. C'est compliqué, c'est une vraie problématique. On se pose des questions et on réduit notre nombre de rencontres actuellement.
À cause de ça, on
décide d'en faire une par mois, par exemple, mais de la porter pendant un mois, que le livre soit vraiment en avant, qu'on travaille parce que nous sommes des passeurs de textes. On n'est pas des gardiens du temple, comme disait Pénac, on est des passeurs de textes. Donc on doit être là, on doit passer, et puis à un moment donné, fêter l'événement avec une rencontre. On est passeurs, et puis je suis absolument d'accord avec mes confrères et Julien, on est des défricheurs. Et c'est ce travail-là qui est important.
Julien Bisson, on a du mal à remplir les salles avec des écrivains alors même qu'on est à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des autres villes de France? Le 1 est allé à Nancy.
Oui, à Nancy.
Pourquoi Nancy?
À Nancy, parce que c'est Nancy et à Nancy se tient le livre sur la place qui est le premier grand salon littéraire de la rentrée littéraire. Donc c'était important pour nous, pour la première fois cette année, de nous y associer. Mais je tiens à revenir sur Paris. C'est plus difficile à Paris que dans d'autres grandes villes ou petites villes de province.
Trop d'offres culturelles ?
Il y a parfois trop d'offres culturelles, il y a parfois un manque de curiosité. Mais parlez-en aux auteurs qui vous diront, en effet, j'ai fait une dédicace à Paris, il y avait peu de monde, je suis allé dans une petite ville de 6000 habitants, la salle était pleine, il y avait 200 personnes. Donc, faut pas croire que parce que c'est Paris, justement, et parce qu'on a une population plus importante à Paris, les gens vont se presser dans les librairies. En effet, c'est plus compliqué, je pense, pour les libraires d'arriver à créer de l'envie, à créer de la curiosité.
Bon, on va aller choisir les livres directement sur la table. Vous avez fait quelques sélections pour nous. Alors, on commence par Guillaume Lavenant.
C'est une idée, celle d'avoir choisi le bon quartier à laquelle ils se sont habitués à force de l'avoir répété. Ce ne sont pas des gens qui échouent. Voilà ce qu'il vous faudra garder à l'esprit. Ceux qui n'échouent pas ne vivent pas, avait pour habitude de dire Lewis. Ils évoqueront quelques règles de vie que vous ferez vôtres. L'heure à laquelle ils se lèvent, les habitudes du soir, la vie avec les enfants, avec Elena surtout parce que Charles le Grand n'a besoin de personne. Ils détailleront l'organisation pratique. Puis, sous l'apparence d'une femme imposante au chignon impeccablement lissé, la voisine sonnera à la porte. Elle ramènera Elena. Vous ne comprendrez pas pourquoi ils l'ont faite garder ce soir-là. Pourquoi ils ont préféré vous accueillir seule. Debout dans l'entrée, Elena vous paraîtra lumineuse, due à la blondeur de ses cheveux, due aussi à la franchise de son regard qui soutiendra le vôtre. Vous viendra la sensation qu'elle a tout compris, qu'elle voit clair dans votre jeu, dans notre jeu, vous défiant de le jouer jusqu'au bout, comme si elle savait parfaitement qui vous êtes. Et pour la première fois, la tête vous tournera un peu, comme un avertissement. Bien vite, elle vous quittera pour aller se laver les mains. Demeureront sous la lueur de l'éclairage artificiel, leur corps tendu et celui de la voisine prête à repartir. À son regard, vous comprendrez qu'ils lui ont parlé de vous. Avant de refermer sur elle, ils auront quelques mots de remerciement. Regardez-les. S'embrasser, sourire, prononcer des paroles de circonstance. Merci pour le service, mais elle est adorable. C'est quand vous voulez, ça me fait plaisir à moi. Merci Dora ou Dorine ou Justine ou Julia. Merci pour tout. Tenir la porte, prononcer d'autres paroles comme la bise à Jean-Paul ou à Jean-Pierre. Je lui dis, et puis le dernier regard, la porte refermée, le sourire qui cesse brutalement, la lassitude sur le visage, un court instant, avant de croiser vos yeux et de reprendre consistance et de sourire à nouveau.
Protocole gouvernante lu par Julien Rosa. Alors Catherine Florian, c'est l'un de vos choix, l'un des choix Violette & Co. Pourquoi ? D'abord quelques mots peut-être sur cette histoire de gouvernante, la gouvernante de la jeune Elena.
Oui, alors c'est important de dire que c'est un premier roman. Donc j'ai choisi dans les livres que vous avez demandé de préférer sur trois titres et j'ai fait l'option de choisir trois premiers romans. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à défendre. Donc Guillaume Lavenant, oui effectivement, sur cette histoire, c'est un, comme on l'a entendu, c'est un vouvoiement. Le texte est écrit avec un vous au futur. Et on est tout de suite happé dès les premiers mots. Une femme se présente comme gouvernante dans une famille idéale d'un milieu aisé, une banlieue cossue. Et petit à petit, elle va créer des liens avec les membres de la famille et elle va avoir une attitude assez intrigante. Par exemple, elle va commencer à verser du liquide sous les lattes du parquet du vestibule. Elle a apporté un livre pour enfants qu'elle lit régulièrement à l'enfant de la maison, Elena. Une histoire assez intrigante. Elle va commencer à regarder des séries télévisées, avec la mère sur le canapé. Et petit à petit, on comprend que ce monde lisse, ce monde va commencer à basculer, elle va semer le chaos dans cette famille, il va y avoir un dérèglement, des perturbations. Donc c'est, alors c'est dans le style, c'est de courts paragraphes, il n'y a pas de chapitre, on passe de paragraphe à paragraphe, et c'est comme on est happé par le texte, c'est comme une intrigue, un suspense. C'est pas un policier, mais c'est une sorte de suspense et on se demande ce qui va se passer.
Avec voilà. Une étrangeté.
Donc c'est très étrange. C'est très étrange en ce moment de ce qui se passe. Elle suit, on a l'impression que c'est une voix intérieure et on comprend très vite, en fait, que c'est un protocole, d'où le titre, protocole gouvernante qu'elle suit. Et il y a un club, on ne sait pas trop, derrière, une personne qui s'appelle Lewis, et de temps en temps, il y a des sentences comme ça qui sont données dans le livre. Et petit à petit, vers la fin du livre, il va y avoir une accélération. Et là, j'en dirai pas plus.
Ah bah non,
il y a quand même,
voilà. Hors de question.
Donc, hors de question. Donc, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Alors, d'abord, il y a ce ton très intrigant, ce style. J'ai pensé, alors ça fait beaucoup penser au théorème de Pasolini. Et j'ai vu aussi, je voyais, on y voit presque, qu'on pourrait très bien tourner un film, et j'ai vu Haneke, moi, ce film. Et en fait, il y a différents niveaux de lecture. Moi, j'en ai fait une lecture sociopolitique, mais on pourra en faire d'autres lectures. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de prémâché. Ça demande une lecture active. C'est-à-dire, c'est au lecteur aussi d'y mettre de lui-même, de l'interprétation. Et je pense qu'on peut le lire de façon très différente. Chaque lecteur peut le lire de façon très différente. Donc, il y a une participation vraiment du lecteur.
Alors, un premier roman, pour alterner un peu les genres et les plaisirs, Anne-Laure Vial, vous avez fait trois choix. D'ailleurs, je remarque que chez chacune d'entre vous, vous avez choisi deux auteurs femmes et un auteur homme. Répartition parfaite, sans le savoir les unes les autres. Peut-être parler de Cora dans la spirale, de Vincent Message, que vous avez choisi aussi.
Oui, alors, donc Cora dans la spirale, c'est un roman social. C'est l'histoire, je vais commencer par l'histoire, c'est l'histoire de Cora qui vient d'avoir une petite fille, Manon. Le papa s'appelle Pierre. Elle reprend le travail dans l'entreprise Borrelia. Elle s'occupe du marketing. Et puis, petit à petit, elle va être broyée, en fait, par les changements de cette entreprise qui vont se mettre en place petit à petit avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Et bon, ça, c'est l'histoire. Il y a beaucoup d'empathie pour Cora qui parle presque à la première personne. On est vraiment dans sa vie et c'est plein de petits faits comme ça qui se déroulent sur 450 pages. Donc, c'est assez ambitieux. L'écriture est très précise. C'est celle d'un sociologue presque. Mais évidemment, c'est le talent d'un écrivain. Parce qu'en fait, Vincent Message nous emmène dans cette histoire de Cora. Mais dans le même temps, il arrive à nous raconter l'histoire de cette entreprise Borrelia qui a vu le jour dans l'après-guerre, avec un patron plutôt social, etc., qui petit à petit se métamorphose. Et à travers cette métamorphose de Borrelia, Vincent Message décrit la métamorphose du capitalisme. Donc on parle d'open space, de déménagement dans une tour, etc. Et parallèlement à ça, et là c'est vraiment un livre d'écrivain, il va raconter en fait les moments de joie de la vie de Cora dans sa vie d'avant, avant qu'elle soit broyée par ce système. Et donc par petites bulles très poétiques, il va comme ça nous raconter son histoire et sa vie d'avant, qui est sa vie magnifique.
Alors, ce qui est assez amusant, pour revenir à Julien Bisson, à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question économique, motif littéraire, mais de longue date, c'est pas un nouveau motif littéraire, ce qu'on retrouve, c'est ce décalage. On disait, le roman ne fait pas nécessairement l'actualité. Là, finalement, ces métamorphoses décrites par Vincent Message sont des métamorphoses qui existent depuis 30 ans dans le système capitaliste et à l'intérieur de l'entreprise. C'est tout le capitalisme du bonheur et tout ce management qui l'accompagne.
Oui, mais moi, j'ai toujours l'impression que la parole publique en général essaye de raccommoder et que les écrivains, eux, et puis les écrivains de cette rentrée en particulier, essayent au contraire de mettre à nu toutes les déchirures qu'on peut apercevoir, toutes ces coutures qu'on essaye de qui sont parfois pas très bien faites, qui essayent de mettre ensemble notre société. Donc, quand un excellent romancier comme Vincent Message regarde ces déchirures, ces coutures, et ben justement, il met à nu ces plaies ouvertes qui sont qui sont entre nous. Et donc là, c'est en effet Cora dans le corps, dans la spirale, c'est un très très beau roman, et qui montre bien la sauvagerie du monde dans lequel on vit. Il y en a d'autres romans qui explorent un petit peu ces d'autres formes de déchirure sociale, que ce soit les violences faites aux femmes chez Karine Thuil, que ce soit les violences faites aux enfants, on en a parlé avec l'Orléans de Yann Moix. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette propension, cette capacité du roman à mettre à nu ces déchirures qui est à mon avis tout à fait fondamentale.
On va écouter un autre choix, celui de Karine Henry, et c'est Valentine Gobi qu'on a déjà évoqué chez Actes Sud, Muren.
Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher et ça traverse des gares ou demander de l'aide. François franchit une clôture, coupe par les champs. Même les champs, c'est mieux que la route. La croûte cède et à chaque pas, il s'enfonce jusqu'à m'immoler dans une gangue de neige stable. Après, il suit les rails, le soleil légèrement à l'ouest. Il avance plus vite, la laine chaude. Il faut en finir avant la nuit. À un moment, il aperçoit une voie de garage, un groupe de wagons immobiles. Il se dit « je vais grimper sur un wagon, tenter de situer le camion et la prochaine gare, faire signe à Toto ». Il s'approche des wagons, s'agrippe où il peut, glisse ses doigts dans les fentes du métal. Il a peu de prise, c'est moins aisé qu'avec l'échafaudage, mais il a 600 muscles et 300 articulations décidées à l'effort. Une fois assis sur le toit face au paysage sans relief, blanc sur blanc, sauf la masse des bois, il est dans une estampe. Il inspire, gonfle ses poumons, il a l'estomac vide, la tête lui tourne un peu. Il se met debout. Une seconde encore, l'hippocampe est intact. Il contient la silhouette de la biche, le vol du pic noir, les pariétaires givrés et le bouquet de houx jeté dans la neige au pied du wagon et toutes les images, tous les sons, gestes et pensées qui précèdent depuis l'aube, depuis des semaines, depuis le début de l'hiver sibérien, depuis mine. François lève les bras, plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve. Une déflagration fracture le ciel. Le corps de François s'arque en Fosbury au-dessus du wagon, prêt à franchir une barre de saut imaginaire. Son cerveau brûle, si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la scène, pas un corbeau ne survole la plaine.
Alors c'était Muren de Valentine Gobi, lu par Lou Quevaux-Villiers. Karine Henry, quelques mots sur ce roman, pourquoi ce choix ? Alors déjà situé, hein, c'est en 56, c'est l'hiver 56.
Voilà, c'est ça, ça se passe dans les Ardennes. Là, on est au tout début du roman. François Sandre a 22 ans, il a la vie devant lui, tout va bien. Il est là-bas pour aider un cousin et voilà, cet accident survient. Ce terrorisme du réel qui est l'accident en fait. Il est amputé des deux bras. Effectivement, il sauve sa peau, mais il y laisse les deux membres supérieurs. Débute alors, en fait, non pas l'histoire d'un mutilé, mais pour reprendre les termes de Valentine Gobi, l'histoire d'un mutant sublime. Parce qu'en fait, ce livre va raconter l'histoire, à travers François, l'histoire de l'handisport, les débuts tout du moins. Pour François, ce sera la nage. Dans la nage, il va déployer sa rage de vivre. Il va s'équiper de prothèses. À l'époque, les prothèses étaient réservées aux grands blessés de guerre. Donc, il doit s'intégrer à ce monde des grands blessés de guerre. Et peu à peu, au-delà de la résilience, parce qu'il s'agit d'autre chose que de résilience, au-delà même de la transformation, il va muter. Il va muter et faire de sa déficience un potentiel.
C'est une histoire de métamorphose, hein, très différente de celle de Vincent Message, mais on est quand même dans cette thématique, beaucoup plus corporelle cette fois-ci.
Alors voilà, l'écriture est chirurgicale, c'est une écriture du corps mutant, mais en même temps que chirurgicale, Valentine Gobi a dans son axe, dans son monde fictionnel, un travail sur le corps qui est absolument remarquable et unique. C'est là où on reconnaît un écrivain. Lorsqu'il y a un monde en fait qui se déploie et qui continue d'œuvre en œuvre, et c'est une écriture également sensible, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire cet écart entre l'écriture précise du corps, on l'a entendu, et en même temps le sensible, c'est-à-dire donner mot au corps de l'esprit.
À travers cette langue, je vous coupe, pardon, mais par rapport à cette question de la langue et du croisement, c'est vrai qu'on voit des données chiffrées qui apparaissent. Ce n'est pas le seul roman d'ailleurs qui se distingue là-dessus, hein, la vie en données chiffrées comme ça. Il y a ces croisements littéraires, Julien Bisson, qu'on retrouve avec le langage de l'entreprise, avec un langage administratif, avec un langage internet, réseau social, etc. Ce croisement des langues, il est très important aussi de par les nouveaux supports d'écriture. On retrouve plus souvent dans les romans maintenant ces croisements d'écriture.
Oui, parce que le travail de l'écrivain, c'est justement d'arriver à explorer aussi l'absurdité de notre langue contemporaine, l'absurdité des langages qui ne disent plus le réel. Il y a tout le langage de l'entreprise n'est plus un langage qui dit le réel. C'est un langage de communication, mais qui n'est pas un langage qui nous permet de dire quelque chose à l'autre. Et donc, le fait dans des romans d'utiliser ces langages, d'arriver à les dénuder, jusqu'à en montrer l'absurdité, c'est le cas en effet dans le cas de Vincent Message, par exemple, ça montre bien le déracinement que les langages actuels auxquels ils nous condamnent. On est dans des langages qui ne décrivent plus le monde dans lequel nous vivons.
Ouais, ça montre aussi tous les espaces créatifs qu'ils ont créés. Karine Henry, les 300 articulations justement évoquées dans ce texte, c'est aussi parce qu'on a cette donnée chiffrée-là que le corps se met à exister.
C'est justement, en fait, c'est un peu ce que... Parce que, pour revenir au texte de Valentine Gubi, c'est une exofiction, puisque c'est inspiré de Zhen Tao, qui a été champion de natation aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Et... précédemment, je parlais d'élan narratif. En fait, je pense qu'en partant de ce réel-là, en partant de la réalité d'un fait, d'un corps, d'un accident, on peut en fait laisser les mots déployer, créer une marge en fait où le style arrive. Et ce style, justement, chez Valentine Gubi, est absolument. C'est une écriture qui est déterminée, qui est extrêmement solaire et très patiente à la fois dans la description. Et
c'était ça à veut l'image... dire quoi, patiente?
Et ben, c'est à l'image de la volonté de François. Voilà. Et cette rencontre entre un style, une forme et un sujet, c'est extrêmement rare. Et pour moi, ça veut dire une œuvre aboutie. Accompli.
Vous parliez peut-être un tout petit détour par là, Catherine Florian, de l'utilisation d'un « vous » au futur. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des nouveautés justement que vous avez constatées comme ça dans les formes, soit d'adresse, soit d'usage du temps? Ça avait l'air de vous avoir interpellé, ce découpage du livre sans chapitre.
Oui, effectivement. C'est comme disait Karine, c'est-à-dire d'essayer de trouver dans la forme, dans l'écriture et dans la forme, une adéquation au sujet. Effectivement, là sur ce vous au futur qui est intrigant correspond tout à fait, ça colle tout à fait avec le suspense, l'attente qu'on peut avoir. Donc là, effectivement, c'est une forme réussie.
Merci à tous les quatre d'être venus parmi nous, Catherine Florian, Karine Henry et Anne-Laure Vial, bien sûr Julien Bisson. Je rappelle le nom de vos librairies Violette & Co, Comme un roman est ici, avec Julien Bisson, le numéro du 1 qui sort demain et qui est consacré lui aussi à la rentrée littéraire et au choix des libraires.
écoute Kel Tinawen, extrait de l'album Abajdar, apparaître le 6 septembre chez Wedge Pias du groupe de Desert Blues malien. Il sera en concert d'ailleurs le 16 octobre à Argenteuil, le 17 octobre à Quimper et le 18 à Joux-les-Tours et bien d'autres dates en France à suivre. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la grande table d'été avec pour invité la primo-romancière Anne Pauly. C'est une histoire de deuil à base de sacs Leclerc, de couvertures polaires tachées de soupe et de Céline Dion. Une histoire intime comme l'enfance qui remonte par bouffées, drôle comme le malheur. Dans son roman « Avant que j'oublie », Anne Pauly bâtit un tombeau de mots à la mémoire du père, un espace fantasque et coloré pour son dernier voyage, le premier de sa nouvelle vie à elle, sa vie d'écriture. Anne Pauly est aujourd'hui l'invitée du portrait de la grande table d'été.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers.
Bonjour Anne Pauly.
Bonjour.
On n'a pas tellement l'habitude de commencer à présenter un livre en écoutant Céline Dion.
Oui.
Surtout un roman de chez Verdier.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi Céline Dion? Céline Dion, en fait, c'est une chanson qui s'appelle « Je voudrais parler à mon père » et qui arrive comme une épiphanie finale dans le roman. La narratrice a raconté plein de choses sur son père, plein de choses, et puis finalement, elle voulait lui parler tout au long du livre, finalement. Ce livre, ça sert à ça, de continuer à parler aux morts. Et l'épiphanie finale arrive avec Céline Dion sur un autoradio, sur une route de campagne. Et en fait, l'histoire de la chanson, l'histoire de Céline Dion, alors pourquoi Céline Dion? Parce que Céline Dion, c'est le commun. C'est-à-dire que si je vous dis « dans le froid, dans les flammes », vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Et que c'était ça, revenir au commun. La chanson, ça permet ça, ça permet de dire l'ineffable. Et puis ça m'a permis aussi, il y en a une autre aussi au début du roman, de laisser à la chanson le soin d'exprimer l'émotion. Parce que j'aurais décrit ce que raconte Céline Dion, ça m'aurait pris 3 pages et puis ça aurait sûrement été un peu niais. Céline Dion le dit beaucoup mieux que moi.
Et puis il y a cet ancrage matériel très fort. Alors il y a la culture pop d'un côté qui arrive dans le quotidien, mais Anne Pauly, dans Avant que j'oublie, il y a tout un listing précis des objets non sans humour, avec un côté un peu houellebecquien dans le détail. Plastique, Leclerc.
Oui, alors la description de ces objets, ça me semblait intéressant, parce que d'abord la peinture de l'intime et de ces objets-là, je sais pas, ça en dit plus long. Un sac Leclerc en dit plus long qu'une grande phrase. Une boîte de gâteaux Lidl en dit aussi davantage. Des cartons fraises d'Espagne avec des lettres à l'intérieur, ça dit aussi où on est, comment. Et cet inventaire, il était fait pour décrire de quoi la vie de cet homme avait été faite. C'est-à-dire de choses communes, banales, et en même temps de choses singulières et qui peuvent faire sourire aussi à leur lecture. Et c'était aussi cet inventaire, une question autour de qu'est-ce qu'on fait des affaires d'un mort, qu'est-ce qu'on en fait, on les jette, on les donne à quelqu'un, voilà, c'est très compliqué d'avoir à faire ça. Et faire un inventaire, en quelque sorte, ça permet de voir venir, ça permet de retarder encore le moment où il va falloir jeter, oublier peut-être.
En même temps, le faire comme ça, le faire très précisément en donnant la marque, le nom des gâteaux et en les décrivant, ça crée aussi cet humour ravageur qui, dès la première page, pose la question du malheur et de sa drôlerie.
Oui,
Anne Pauly.
Oui, alors c'est quand le tragique arrive, on a plusieurs possibilités. On peut se vautrer dedans, on peut faire face. Et peut-être que moi, c'est ma manière de faire face. Ça a été ma manière de faire face, mais dans la vie en général, de toute manière, de ricaner en fait des choses. Et dans ce moment d'acuité particulière, de stupeur qui vous frappe quand vous êtes dans un deuil, dans un moment de mort. Vous avez cette présence au monde qui vous fait remarquer justement tout ce qui serait drôle et tout ce qui pourrait vous arracher à cette tornade qui vous arrache le cœur. Donc voilà, l'humour permet, pour moi en tout cas, de mettre à distance et aussi d'installer une connivence avec le lecteur. Parce que ce que je raconte, c'est à la fois singulier, mais à la fois très commun. Tout le monde a vécu des messes terribles, tout le monde a vécu le croque-mort qui raconte n'importe quoi. C'est arrivé à plein de gens, en
fait. Le prêtre qui s'endort.
Le prêtre qui s'endort. Voilà, et donc noter tous ces éléments, ça permet à la fois de mettre à distance, mais aussi de convoquer les lecteurs, c'est-à-dire peut-être certains ont vécu ça et peut-être ils n'avaient pas eu l'occasion de le dire. Moi, je le dis pour eux, peut-être.
Alors, plus on est dans des phases difficiles, proches de la mort ou juste dans l'après, plus c'est aigu et plus on rit. Le lecteur est mis dans une situation un petit peu délicate, d'hurler de rire pendant la messe d'enterrement du père de la narratrice. Quel était justement le moteur de cette écriture-là? Alors, on a compris que c'était une autofiction, mais pas que. Il y a cette transformation quand même littéraire. Anne-Poly.
Oui, bien sûr, c'est un roman qui est largement inspiré de faits autobiographiques. Enfin, il y a des choses qui se sont passées pour de vrai. Mais c'est quand même passé au prisme de la mémoire, de l'inconscient, du langage, de ce qu'on sélectionne, de ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire. Au prisme de la mémoire aussi, parce que l'esprit est plastique. Il a tendance à évacuer parfois ce qui lui déplaît, ce qui le fait trop souffrir. Donc l'écriture brasse tout ça. Donc évidemment, c'est recomposé, refait. Je me souviens plus de ce que vous m'avez
dit. Vous avez tout à fait répondu sur la question de la mémoire. Cette mémoire, elle est retranscrite dans un langage fait d'aller-retour. Le temps n'est pas du tout linéaire. En revanche, certains objets, certaines images, certaines associations d'idées font le pivot entre des scènes du passé et du présent.
Alors, en fait, c'est un roman que j'ai écrit un peu d'une traite, en laissant justement les idées s'associer librement. Je pense que c'est un peu la clé, ça. Enfin, en tout cas, moi, j'écris de cette façon, c'est-à-dire que je fais confiance à l'association libre. Ça me vient de l'analyse aussi, qui est un outil formidable pour découvrir ou laisser entrevoir les structures du langage en soi. Et l'association d'idées permet ça. Et l'association comme ça de tel objet fait penser à telle chose. Il y a il y a des espèces de retours, des ressacs qui se sont faits un peu spontanément dans ce texte. Ils sont vus un peu tout seuls.
Cette narratrice, on voit qu'elle a mis du temps à aller vers ce qu'elle voulait devenir. Et en même temps, elle est d'une immense liberté dans sa narration. Puisqu'elle est un peu trash, disons-le, Anne-Poly, à certains égards, dans sa manière de décrire le père amputé, la vie très pratique, le corps assez tabou du père mis à nu.
Oui, c'est important. On parle pas très... Enfin, plein d'écrivains en ont parlé, Hélène Sixous, Guibert, tout ça. Mais l'histoire du corps, c'est très important. Dans la mort,
Du corps du père.
Du corps du père. Dans la maladie et dans la mort, on parle pas tellement de ça. Donc c'est très important pour moi de revenir vers ces choses concrètes, la douceur de la peau, la respiration de quelqu'un. C'était important de parler de ça, parce que la mort, c'est banal, hein, tout le monde meurt, il y a des tas de gens qui meurent, il y a aussi des tas de gens qui meurent.
Un peu tout le monde, d'ailleurs.
Tout le monde meurt, enfin, vous allez mourir, moi aussi. Mais c'est quand même toute une histoire, et il fallait redire cette histoire, et redire ce que ça fait à un corps de mourir, et finalement retarder un peu la mort en la racontant à nouveau.
Les corps peut-être masculins, en tout cas paternels, sont peut-être moins communs en littérature. Les femmes sont peut-être plus facilement déshabillées, Anne-Poly. Ouais. Est-ce qu'il y avait l'idée un peu transgressive? Votre langage, il est largement transgressif à plein d'égards dans ces mélanges.
C'était pas très... Enfin, ça me semble pas transgressif. Finalement, si, la transgression, elle est un peu à l'image du personnage du père. C'est-à-dire... Je le décris comme un gros déglingot, un punk avant l'heure. Et
Maracaille unijambiste, c'est quand même transgressif.
Histoire de dire Maracaille, oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-conforme chez ce personnage, de la revanche un peu. Quelqu'un qui a donné l'impression de se laisser faire, mais qui ne s'est en réalité jamais laissé faire. Alors, la transgression a parlé du corps masculin. Des gens m'ont parlé de ça sur l'histoire du soin et comment les corps comment ce corps est mis en avant. Et je voulais dire que moi, ça me semble pas hyper transgressif de parler du corps masculin comme ça. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu déjà, et c'est aussi comme ça qu'on socialise les filles. C'est-à-dire les filles, elles sont là pour souvent moucher, caresser, réconforter, laver, soigner finalement. Donc ça m'a pas paru complètement transgressif de... Ça correspond à une forme de socialisation que moi j'ai eue comme des tas d'autres femmes.
Ce qu'on appelle le care.
C'est ça.
Alors... Racontez quand même peut-être que ce père n'était pas si facile que ça pour la narratrice. C'était un père qui a eu des problèmes d'addiction, un père décrit comme violent. Et c'est une entreprise de réhabilitation.
On peut dire ça parce que... oui, c'était de rendre un hommage à cette mémoire-là d'un homme qui était complètement empêtré dans ses propres névroses, qui s'est soulagé comme tant d'autres avec des addictions aux opiacés, à l'alcool, à toutes sortes de choses, pour se calmer. Finalement, on en est tous un peu là. Hein. Mais autant ça pouvait moralement sembler répréhensible à son époque, autant maintenant tout ça s'est un peu passé. Et c'était une...
Enfin, la violence, non ?
Non, pas la violence. Mais la violence, en l'occurrence, était... Je l'excuse pas hein, quand je raconte, mais je comprends aussi que cette violence était aussi motivée par des tas de choses. C'est-à-dire que motivée justement par l'alcool, motivée par une pression importante socialement, au niveau professionnel. Enfin, je n'excuse pas du tout la violence des hommes sur les femmes. Hein, mais je... J'ai essayé de comprendre la violence de mon propre père, en fait. Et je décris à la fois celle-ci comme redoutable et nocive et délétère, et en même temps...
Et transmissible. Et
transmissible à son propre fils, par exemple. Mais aussi, l'autre côté de son âme, c'était plus quelque chose de l'ordre de la poésie, de la contemplation, de la timidité. Donc c'est un peu ces deux facettes que je souhaitais rendre et restituer.
Et qui traversent le livre. Est-ce que vous nous en liriez un extrait ? Est-ce que vous en avez choisi un
Alors, extrait ? Vous parliez tout à l'heure de La Messe rigolote. Donc si vous voulez, c'est un extrait court. Donc c'est le moment... que chacun connaît peut-être, de au moment où le cercueil est là et c'est la messe, et il va bien falloir aller jusqu'au bout de cette messe. Donc voilà. Ce fut la messe la plus longue de toute l'histoire de la chrétienté. Rien ne s'enchaînait bien, les textes étaient trop longs, trop courts, et les crécelles s'égosillaient, tandis que la photo du défunt glissait lentement dans son cadre. André, qui nous le découvrions, avait la voix et les inflexions de Michel Serrault dans « 2h15 avant Jésus-Christ », ne trouvait pas ses pages, se prenait les mains dans les manches de son aube, soufflait et s'énervait méchamment après Freddy. Il semblait à l'agonie, et à chaque mouvement qu'il faisait, nous avions l'impression que ce serait le dernier. Il s'est beaucoup répandu sur ses souvenirs, a reparlé de ma mère, et a redit trois fois qu'on n'était pas là pour faire l'apologie du mort, qui avait, quand même, était-ce encore nécessaire de le rappeler, beaucoup de très gros défauts. Le fou rire nous a pris après l'homélie. Normalement, après son laïus, le prêtre s'assoit et garde le silence pendant quelques minutes, le temps que nous autres, pauvres pêcheurs, ayons le temps de réfléchir un peu sérieusement à tout ce qu'on fait de travers. Puis il reprend en disant « Acclamons la parole de Dieu ». André, lui, s'est assis dans son fauteuil et a fermé les yeux. Au bout de 5 minutes, il n'avait toujours pas bougé. On commençait à s'inquiéter. Des gens se sont mis à tousser pendant que le visage de Freddy se décomposait. C'est Eugénie qui a trouvé la solution en plaquant sur son clavier quelques accords agressifs. André a sursauté, s'est levé d'un bond en hurlant « Acclamons la parole du Seigneur ». L'assemblée soulagée a répondu de bon cœur « Louange à toi, Seigneur Jésus ».
Alors on en sent que plus, Anne Pauly, merci d'avoir lu cet extrait, plus on a affaire à des institutions, alors l'hôpital, l'église, aussi à d'autres égards les pompes funèbres, plus l'humour se veut acide.
Oui, parce que c'est des institutions, en tout cas c'est des ensembles qui sont censés réguler, mettre dans des cases, raccourcir, enfin rendre les choses pratiques en quelque sorte. Et c'est vraiment pas un moment où ça se déroule comme ça dans le psychisme en fait. La mort, le deuil, tout ça c'est des choses terribles. Tout d'un coup quelqu'un veut absolument vous faire signer un papier, un contrat de cercueil, vous faire acheter... J'en sais rien. Enfin, tout d'un coup, c'est des choses où il faut décider des choses un peu absurdes, où il faut... comment dire ça ? C'est des institutions qui sont faites justement pour accompagner ça. Mais leur coercition est si absurde et si forte, pratiquement, que ça ne peut que faire rire.
Et alors, Anne Pauly, vous, quand votre narratrice raconte ces scènes-là, elle bascule complètement dans une sorte de féerie fictionnelle faite de culture pop où elle raconte des pompes funèbres tenues par des zombies, où elle raconte une galerie de personnages.
Finalement, c'était aussi ça aussi, c'est une mise à distance, j'imagine, mais je sais pas, on connaît tous des gens des pompes funèbres. Le monsieur a un costume noir, il a la frange coupée trop court, il a une poigne comme un battoir. Et c'est des personnages. C'est de toute manière, tout ça est une fiction. Enfin, c'est une fiction, c'est une histoire que j'ai racontée. Mais vivre ça, ça s'apparente à une fiction dans le réel, en fait. C'est le réel dépasse la fiction.
Et en même temps, il y a un côté assez punk. Alors un côté un peu punk, déjà dans le personnage du père, même celui du frère, et cette culture justement populaire qui irradie aussi, participe de ce côté un peu punk en littérature.
Alors il y a aussi oui, c'est une manière aussi de secouer un peu le cocotier. Enfin en tout cas, je trouve que par exemple dire connasse dans une phrase alors qu'on a tout bien monté toutes ces phrases autour, tout d'un coup ça, on respire un peu. Dire des gros mots, ça soulage, et puis ça, faut pas en mettre trop, mais ça, voilà, ça résonne aussi avec cette famille de cinglés, quoi. Il y a un côté, on est gentil, on veut bien tout ce que vous voulez, mais il y a un moment, on a quand même quelque chose à dire. Enfin, il y a un côté. Après, c'est de la punkitude. Pour la narratrice particulièrement, il y a deux, trois moments où elle s'énerve, mais ça va pas très très loin. Elle fait tomber un tabouret,
deux, trois agacements politiques aussi.
Oui, ça c'est aussi, c'est important.
Son militantisme, se décrit elle-même comme gauchiste.
Oui, alors il y a les agacements justement autour de... Ce roman m'a permis de déployer une grille que j'ai dans la vie, en fait, qui est autour de ça, je suis perdue.
Du militantisme, d'un militantisme LGBT que l'on sent.
Ouais. Alors ça, c'était, ça, j'ai voulu en parler parce que c'est arrivé à peu près au même moment pour moi, enfin, dans le réel. Cette histoire de la manif pour tous, des débats, qui ont duré des mois pour rien et qui ont, fait se sentir la minorité complètement, non intégré à la société, enfin c'était une insulte vraiment à l'intelligence des gens, à tout ça. Et c'était important de rementionner ce truc-là parce que c'est, je pense que les gens se sont pas rendus compte, en tout cas les politiques et les médias, qu'il y a eu vraiment un déferlement de haine qui s'est passé sur les plateaux de télé, sur les plateaux de radio, et que ça a vraiment blessé les gens et vraiment. Enfin, c'est bien, ça a apporté au moins cette question, mais c'était pas la peine de faire tant de mal à tant de gens.
Alors ça, c'est la question ancrée, la question politique. Mais il y a aussi ce que l'on ressent d'une écriture marquée aussi par des lectures classées queer, en tout cas dans leur sujet. Et cette inspiration peut-être Janet Winterson ou d'autres auteurs. Quels sont les auteurs que vous avez lus, Anne Pauly, qui vous ont peut-être inspiré pour parler ne serait-ce que de l'amour, que des liens de famille?
Alors, pendant l'écriture de ce roman, je me suis quand même un peu gardée de lire des choses sur le deuil et la mort pour pas m'auto-bloquer toute seule, c'est-à-dire pour pas trouver oh là là, machin a écrit un truc tellement formidable, je serai jamais à la hauteur, j'y arriverai pas.
Sauf les livres de développement personnel, quand
voilà,
même.
Sauf les livres de développement personnel dont je ris beaucoup parce que c'est les méthodes comme ça pour sortir de la mélancolie ou du deuil ou trouver le bonheur, ça me semble, je trouve qu'il faut, c'est épatant comme méthode, ça me fait rire.
Vous en faites un résumé épatant.
C'est ça. Et puis. Oui, alors, du coup, il y a eu trois livres qui m'ont un peu guidée. Il y a « Pourquoi être heureux quand on peut être normal » de Janet Winterson, qui est une auteure britannique.
Britannique, absolument.
C'est un roman qui est aussi un peu autobiographique, où elle se décrit affublée d'une mère bigote, complètement hystérique, avec la religion, et aussi assez froide, qu'il aimait assez peu. Et ça me plaisait sur le côté hystérie des familles où on comprend pas, enfin où, et en fait dans ce livre ce qui était intéressant c'est qu'elle elle réhabilite sa mère qui était donc cette femme froide folle qui l'a maltraitée vraiment, et en fait qui elle, dans ce livre, elle parle de littérature, mais elle parle aussi de comment cette femme avait sûrement ses raisons d'être comme elle était. J'ai aussi...
Donc vous aviez aimé ce côté rédemption qu'offre le livre.
Ce côté rédemption par la parole, recomposition du personnage et questionnement finalement.
Alors je vous propose d'écouter Janet Winterson, c'était dans L'Humeur Vagabonde sur France Inter, le 25 juin 2012, et c'est aussi la grande auteure des Oranges ne sont pas les seuls fruits.
All first novels are autobiographical.
Tous les premiers romans sont autobiographiques, d'une façon ou d'une autre. Moi, je voulais exploiter mon identité, mais en tant que personnage de fiction. On revient à cette idée que j'exprimais précédemment, où on lit sa vie comme étant celle d'un personnage de fiction. Par ailleurs, je voulais m'éloigner de l'idée selon laquelle les femmes ne racontent que leur propre expérience. Au contraire, moi, je voulais me lancer dans l'expérimentation en plus de l'expérience. Je voulais me servir de moi-même comme toile pour peindre ma vie, en quelque sorte. Je voulais m'inventer. Donc, il ne s'agissait pas tellement de moi. Il s'agissait d'un moi que j'avais créé.
Alors le moi que vous avez créé, vous, c'est votre alter ego, cette âne que l'on retrouve dans la narration. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? La part d'autobiographie, certes, mais la part de transposition, Anne Pauly, qui est énorme dans la forme.
Oui, c'est très modifié, c'est très transposé, c'est très...
C'est très différent parce que c'est écrit?
Oui, aussi. Et puis parce que... Je rebondis sur ce que j'ai entendu de Janet Winterson à l'instant, qui disait chaque premier roman est un peu autobiographique. Je trouve ça intéressant parce que je crois que c'est effectivement les premiers romans disent ça. On a une grille, on a une langue, quelque chose qu'on porte depuis longtemps en soi. Et les premiers romans parlent de ça. Et c'est ce qu'on a à dire en premier. Après, c'est jamais qu'une pierre sur laquelle peut-être s'édifiera quelque chose de différent. Vous m'avez posé
sur la question de la structure narrative, on retrouve ces allers-retours de la mémoire et on retrouve des motifs qui sont finalement aussi derrière le côté punk, des motifs classiques de littérature, par exemple la nature, très forte dans le livre, presque impressionniste, presque romantique.
Je me suis un peu pastorale peut-être. Ouais, j'ai pas mesuré. Il y a des choses. Oui, il y a sûrement des motifs, mais que j'ai pas forcément mesuré. Enfin, qui sont assez classiques, finalement. Ce que je raconte est assez classique. C'est une mémoire, ce qui s'est passé, comment. Qu'est-ce que vous voulez dire par classique, motif classique des littératures?
De parler de la nature dans un livre, de parler des paysages, de parler des saisons.
Ouais. Mais c'est aussi parce que ça correspond à un univers, l'univers du héros, enfin du personnage décrit. Et que c'était aussi important de parler de tout ça. On a tendance à oublier tout ça, on a tendance à oublier de contempler. Donc c'était quelqu'un qui contemplait et qui m'a transmis ce désir de contempler à moi aussi. Et donc en effet, c'est très classique, mais voilà, c'est venu un peu comme ça en réalité.
Et qui vient contraster avec Céline Dion, par exemple.
Voilà, mais tenir ensemble des contradictions apparentes, c'est ça qui fait la force, enfin, j'imagine.
Comment vous avez pensé la structure du livre sans raconter ce qui se passe à la fin? Il y a quand même un personnage qui joue un rôle de bascule dans le texte, avec ce côté très ancré dans la réalité des objets, avec vos systèmes d'inventaire, et en même temps un rapport spirituel à ce deuil, presque un peu perché, comme vous le dites d'ailleurs.
Oui, en fait, il y a une bascule dans ce texte. En fait, la structure de ce texte, elle était... Moi, je suis quelqu'un qui... Il y a deux ou beaucoup plus de types d'écrivains. Il y a ceux qui sont architecturaux, qui ont tout prévu d'abord. Et moi, je suis un peu plus scripturale. C'est-à-dire que je pars dans l'écriture et puis on va voir où ça m'emmène. J'avais juste une liste de choses que je voulais absolument dire ou décrire. Et en fait, je me suis juste tenue à ça et j'ai déroulé. Et puis à un moment, il y a cet événement qui en même temps est une forme de bascule. Alors il y a l'enterrement à proprement parler, la mise en terre, où c'est la fin. Et puis, il y a une revie qui se fait grâce à une lettre que la narratrice reçoit et qui en fait confirme son intuition que le personnage du père était beaucoup plus poète qu'il n'en avait l'air, beaucoup plus humain et timide qu'il voulait bien le montrer. Et cette lettre, c'est une lettre venue d'avant, à l'époque où le personnage du père était un jeune homme timide. Voilà. C'était en fait un amour de jeunesse. Et la narratrice reçoit cette lettre et ça lui permet de... Une lettre tout à fait, là aussi romantique, pleine de paysages, pleine de feuilles d'or et de coucher de soleil et de
assez métaphysique aussi.
Finalement, oui. Et c'est cette entrée qui permet à la narratrice de faire vraiment le deuil, puis de revivre, c'est-à-dire de réarriver à lire les signes pour leur donner sens, pour faire histoire. Sa propre histoire.
Le côté initiatique d'avant que j'oublie, c'est que vous devenez un écrivain au moment où l'histoire familiale s'achève d'une certaine manière, en tout cas l'histoire de l'enfant, finalement cette autre vie couvre l'écriture, elle passe par plein d'images et presque par le conte aussi, hein. Il y a ces métaphores qu'on ne dévoilera pas.
Oui, j'avais pas pensé à ça, mais de fait, il y a un peu des deus ex machina, des choses qui se passent, des fantômes, voilà, il y a un peu de magie en fait. La magie revient et c'est comme ça que la vie repart, et l'écriture aussi. Et alors, mort du père, début de l'écriture, coïncidence, je ne crois pas. Il y a forcément quelque chose comme ça.
C'est QFD. Voilà. Merci Anne-Pauline d'être venue.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Je rappelle que le nom de votre roman c'est Avant que j'oublie et qu'il est publié chez Verdier. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été. L'émission a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Le Joly, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet. À la technique, Jean Frédérix.